Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours du module Énergie Astrale. Aujourd'hui, on va voir en lunologie l'influence des 24 lunaisons. Alors, c'est un cours qui sera beaucoup plus court et tant mieux, j'ai envie de vous dire, parce que les autres cours sont assez conséquents. Ce sera le plus court des cours de ce module. Et ça me semblait important de vous initier à la lunologie, qui est quand même un des cœurs de Manipura. Donc aujourd'hui, on va voir pourquoi s'intéresser aux lunaisons en énergétique. On va aussi comprendre l'influence des phases lunaires. On va voir l'influence dans les signes du zodiaque. Et on finit avec une expérimentation. Alors, pourquoi s'intéresser aux lunaisons en énergétique? Vous n'êtes pas sans savoir que l'influence du macrocosme, hein, de l'univers, agit évidemment sur le microcosme, sinon vous n'aurez pas pris ce module d'énergie astrale, parce que c'est tout le but de comprendre l'influence du macrocosme sur le microcosme. Et la Lune, qui est le satellite de la Terre, c'est vraiment l'astre qui fait sa révolution le plus vite au point de vue géocentrique. Sa révolution est en 29 jours, donc son influence, elle est vraiment considérable, notamment sur l'élément eau dans le corps. Et pour rappel, le corps est composé à 60% de fluide, donc la Lune nous impacte particulièrement, comme elle impacte les marées, comme elle impacte les animaux, comme elle impacte les plantes, comme elle impacte même le verre dans lequel vous buvez. C'est-à-dire qu'on a aussi une pratique en énergétique qui est de faire de l'eau lunaire, qui consiste tout simplement à laisser reposer de l'eau au rayon de la pleine Lune, en fait. Comme ça, vous avez de l'eau lunaire, de l'eau chargée en énergie lunaire. Voilà, donc il y a une réelle influence sur tous les fluides de la Terre. Et chaque consultant que vous allez avoir a une dominante énergétique qui est spécifique. On l'a vu dans le premier cours notamment. Mais bon, il y a aussi plein d'autres éléments qui peuvent étioler tout ça. Et forcément, chaque personne va vivre différemment telle ou telle lunaison. Donc ce cours, il va vous aider à comprendre comment une lunaison impacte votre consultant. Et vous pourrez même lui conseiller, pourquoi pas, un rendez-vous sur une date énergétiquement adaptée à ce que vous devez travailler ensemble, tout simplement. Donc, on va voir à présent comment on peut comprendre l'influence des phases lunaires, parce que la Lune, le cycle lunaire, est composé de différentes phases. Elle régit vraiment son cycle selon un rythme bien précis. Donc, elle tourne autour de la Terre en 29 jours, et c'est 29 jours où le Soleil va l'éclairer de manière différente. On va distinguer quatre phases principales qu'on va étudier ici. On a nouvelle Lune, Lune croissante, pleine Lune, Lune décroissante. Donc, ça, c'est les quatre phases principales. Mais en tout, on compte quand même 8 phases qui colorent en fait ce cycle lunaire. Chaque phase, elle vibre une énergie qui lui est propre. Je vous ai quand même mis ces phases, même si on va pas rentrer dans le détail de chacune d'elles, parce que on va rester sur ce modèle des quatre phases: nouvelle lune, lune croissante, pleine lune, lune décroissante. Mais voilà, pour vous donner toutes les phases, en phase de lune croissante, vous avez la nouvelle lune, le premier croissant, le premier quartier, la gibbeuse croissante. Et en phase de lune décroissante, vous avez la pleine lune, la gibbeuse décroissante, le dernier quartier, et le dernier croissant. Et après, on repart sur un cycle avec une nouvelle lune. Je vous aurais mis, je pense, des petites images dans le PDF pour que vous voyez un petit peu près comment ça se dessine. Il y a peut-être des images encore plus détaillées sur ce cycle, mais grosso modo, ce sont les phases lunaires. C'est important de comprendre qu'il y a une réelle différence énergétique entre ces phases. On ne va pas analyser la nouvelle lune comme on analyse une pleine lune. Pareillement, quand une lune est croissante, c'est pas la même chose que quand elle est en quart de lune. C'est complètement différent. Donc retenez bien que les pics lunaires sont analysés différemment. Et aussi que le pic de la nouvelle, la nouvelle et la pleine lune, ce sont les pics lunaires. Donc c'est les phases les plus importantes et celles que l'on a tendance à le plus étudier, parce que c'est logique. La nouvelle lune, c'est un pic yin qui est intériorisé. Et la pleine lune, c'est un pic yang qui est extériorisé. Donc je vous conseille de vous limiter à ces deux pics pour pas trop vous éparpiller, parce que la lune est tellement rapide que si vous vous intéressez à chacune de ces phases, vous n'avez pas fini, quoi. Ce serait une analyse qui serait même superficielle, si je peux dire, parce que la Lune reste dans un signe de jour, donc dans toutes les autres phases, l'influence est pas... voilà, elle passe rapidement. Alors quand elle passe, quand elle est dans un signe en nouvelle lune ou quand elle est dans un signe en pleine lune, eh ben cette lunaison-là va impacter les deux prochaines semaines. C'est pour ça que si vous écoutez le podcast Manipura, quand je fais une analyse de lunaison, je donne les énergies pour les deux prochaines semaines parce que je sais que ce pic lunaire impacte les deux prochaines semaines jusqu'à le pic suivant qui est soit la nouvelle lune, soit la pleine lune. Donc, aussi, n'oubliez pas que la Lune n'éclaire que par la réflexion de la lumière du Soleil. Le Soleil reste le centre et le point le plus important du système. Vous ne faites pas l'erreur de placer la Lune en un point, en point le plus important, parce qu'on s'y intéresse particulièrement. Non, le Soleil reste le point le plus important, le point majeur. Les phases lunaires, ce sont simplement des angles de réflexion de différentes, enfin, de cette lumière, en fait. C'est le soleil va l'éclairer de manière différente et c'est comme ça qu'on obtient ces phases lunaires. Quand la lune est pleine, le soleil reflète complètement sa lumière sur la phase que l'on voit de la lune depuis la Terre. Et c'est pour ça que ça exalte l'énergie lunaire. Ceci étant dit, on va voir nos quatre phases principales. Nouvelle lune, lune croissante, pleine lune, lune décroissante. Donc, en nouvelle lune, on a un écart de 0 à 45 degrés avec le soleil. Je vais voir si je vous fais une petite vidéo ou pas pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. C'est le point de départ du cycle et il est marqué par un phénomène de conjonction. Le soleil éclaire la lune par le côté non visible depuis la Terre. Les énergies de cette phase sont liées à l'air, à l'élément air et aussi à la saison de l'hiver. Il y a quelque chose dans un ordre du renouveau, on prépare le terrain, c'est ça l'hiver, hein. La nature se prépare, elle meurt pour, elle hiberne en fait, elle hiberne pour mieux se réveiller au printemps. Donc la nouvelle lune symbolise la naissance d'un idéal vers lequel on va essayer de se hisser pendant tout le reste du cycle qui dure 30 jours. Moi je trouve ça hyper intéressant de faire mon organisation sur 30 jours parce que je suis rythmée avec ce rythme lunaire tout simplement. La nouvelle lune, c'est le moment opportun de poser ses intentions. On va se purifier et on va se préparer à un nouveau cycle. Et c'est une période de repos en soi. C'est pas encore une période d'action. L'action va venir après, mais elle est quand même imminente. On sent que c'est en train de s'amorcer. Donc c'est une période qui est très instinctive, mais qui est aussi créative. C'est une période de grande création parce qu'on est vraiment dans... comment dire ça, on est dans le début de quelque chose et on n'a pas encore cette notion de résultat, donc l'âme est beaucoup plus créative, l'esprit se prépare et il est ouvert, il est prêt à se lancer. Donc je vous ai mis des mots-clés aussi, mots-clés, nouveau départ, concevoir, affiner, créer, jouer, conscience, parce qu'il y a quelque chose dans l'ordre de la conscientisation, et expansion, parce qu'on se prépare à une expansion. En archétype, on associe la phase de la nouvelle lune à l'archétype de la sorcière parce qu'il y a quelque chose dans l'ordre de la frénésie sociétale qui va entrer en dissonance avec le besoin d'intériorité qui se fait sentir lors de cette période. Donc on associe ça à la phase de la sorcière qui se retire de la société, qui s'isole de cette frénésie sociale justement. Donc ça c'était pour notre phase de nouvelle lune. Notre deuxième phase, c'est la phase de la lune croissante. L'énergie lunaire s'accroît et avec elle notre besoin d'entrer en action. C'est le moment de chasser nos doutes, c'est le moment de chasser les mauvaises excuses et de mobiliser notre volonté et notre énergie pour accomplir nos buts, nos objectifs, ceux que l'on a placés lors de la phase précédente qui était la phase de nouvelle lune. En lune croissante, on va sentir que l'énergie du pic yang s'amorce. On est en train de préparer le pic yang lunaire qui est la pleine lune et ça nous pousse à voir plus loin et à sortir aussi de notre zone de confort. C'est une période du coup qui est beaucoup plus facile dans la mise en action. Enfin, on est dans la mise en action, on trouve de bonnes idées, on est aussi dans la recherche de solutions. Donc il y a quelque chose de très proactif dans cette période. Les énergies sont du coup dans un élémentaire feu, parce que forcément lié à l'action, et à la saison du printemps, parce qu'on est en train de faire éclore une énergie, de l'épanouir, et il y a des bourgeons, vous voyez, ça part un peu partout, mais ça éclot aussi un peu partout. C'est une énergie de pouvoir, de détermination, parce qu'il en faut pour nous élever jusqu'au pic lunaire de la pleine lune, Et du coup, on est beaucoup dans le dynamisme, on est dans la recherche de l'indépendance, on est dans un regain d'énergie. L'intellect est au top et on a vraiment une pleine confiance en nos capacités. On se sent vraiment optimiste et motivé. Les mots-clés, c'est déclencher, mouvement, concentration, courage, force, connexion. Parce que on est dans une énergie de printemps où il y a vraiment cette idée de dialogue, d'échange. Et voilà, on rentre en connexion avec la nature en fait. On rentre en connexion avec son environnement. Ensuite, on passe à la troisième phase. Ah pardon, excusez-moi, je vous ai pas mis l'archétype. Donc l'archétype pour la lune croissante, c'est l'archétype de la Vierge. Parce que la Vierge en tant que jeune femme, pas du signe du zodiaque, mais vraiment dans la vie de la femme, la Vierge, donc la jeune fille en fait. Et c'est parce que on est dans cette période dans un désir d'émancipation, on est dans un désir de fortes ambitions, et on a aussi cette envie de se réaliser en tant qu'individu à part entière, ce côté d'indépendance, de fougue de la jeune fille qui se détache de ses parents ou qui se détache des dictats pour aller faire sa vie en fait. Donc il y a vraiment cette idée de la Vierge. On est dans la troisième phase à présent, qui est la phase de la pleine lune. Donc la pleine lune, elle correspond à un angle de 180 à 215 degrés avec le soleil. Et cette pleine lune, elle est dans une phase d'opposition. La pleine lune, c'est une opposition soleil-lune, hein, tout simplement. Je vous le mettrai sur une carte pour que vous puissiez bien voir ce que je veux dire. Et cette opposition va créer, par l'aspect de l'opposition, un tiraillement entre jour et nuit, entre monde intérieur et extérieur, entre énergie yin et énergie yang. L'énergie lunaire est à son paroxysme. Il faut bien vous dire que c'est comme si on allait éclairer avec le soleil l'aspect yang, extériorisation, l'intimité, l'intériorité de la lune. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'intimité est dévoilée, est révélée au monde. Donc c'est pour ça que c'est toujours une phase qui est assez sensible, où on peut être sur les nerfs ou alors on peut avoir un trop-plein, parce que on est révélé dans notre intimité, et pour peu qu'on ait beaucoup à cacher, entre guillemets, même inconsciemment, qu'on ait du mal à exprimer en fait ce qui se passe en nous, et ben ce jaillissement de l'intimité à l'extérieur peut se réveiller par des rêves ou des émotions fortes, etc., etc. Au niveau des énergies, on est lié à l'élément eau, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la fluidité en pleine lune. Faut vous dire que penser que la lune est un astre lié à l'élément eau, et forcément, si le soleil éclaire la totalité de cette phase de lune, on a une exaltation de l'eau en fait. Donc c'est une énergie eau, cette phase de pleine lune, et on le lie aussi à la saison de l'été, parce que c'est vraiment l'heure de se laisser porter, d'être dans la fluidité, d'accueillir ce qui se manifeste. Faut vraiment se dire, en été, vous avez les fruits dans les arbres, enfin c'est vraiment, vous savez plus quoi en faire parce qu'il y a plein de fruits qui tombent par terre parce qu'on n'a même pas le temps de les cueillir tellement la nature est généreuse. C'est vraiment ça cette phase de pleine lune, il y a tellement de trop plein d'un coup, et on est dans cette phase où on accueille ce qui est, on est dans l'opulence, on profite, donc c'est pour ça qu'on se laisse porter par la fluidité, parce que la nature est généreuse et les énergies sont en exaltation. Mais attention, du coup, évidemment, l'eau porte aussi une tendance à l'émotivité, et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, les pleines lunes peuvent être des périodes très chargées en émotions, en trop-plein, en hypersensibilité. Et il ne faut pas hésiter à profiter de cette tendance pour exprimer, pour laisser sortir ce qui doit l'être, au risque de créer des frustrations, de créer de l'anxiété, de créer des dissonances dans son énergie. On cherche aussi à s'affirmer dans cette phase physiquement, ou en tout cas soit physiquement, soit par nos projets, soit les deux en même temps, mais on est vraiment dans une facilitation, je ne sais pas si c'est français, en tout cas c'est plus facile d'être social, d'être tourné vers les autres, d'être en quête d'interaction. Pour vous dire qu'en phase de pleine lune, la nuit, qui est le dark side obscur de notre rythme, la nuit est éclairée de plein phare par la pleine lune. Donc il y a cette idée de on va voir les choses avec plus de clarté. Ce qui était assombri est maintenant mis à jour. C'est cette énergie-là. Donc on prépare aussi le bilan, parce que les choses sont plus claires. On peut préparer le bilan qui commence à s'amorcer avec la phase qui suit, qui est la phase de lune décroissante. Donc pour finir sur cette phase de pleine lune, je vous ai mis quelques mots-clés. Accomplissement, écoute, réflexion, guidance, dévotion et abandon, parce qu'on s'abandonne à ces énergies. Au niveau de l'archétype, c'est l'archétype de la mère, la femme maternante, parce que c'est une énergie qui est tournée vers l'extérieur, hein, on est dans un pic yang, mais voilà, c'est la lune reste un astre yin, hein, on est d'accord, mais en pleine lune, elle est dans ce pic lunaire yang, du coup, il y a cette idée de, ben voilà, la mère, elle est forcément tournée vers l'extérieur, parce qu'elle n'a pas le choix, elle s'occupe des uns et des autres, elle comble le besoin des uns et des autres, elle est en quête aussi de plénitude, et elle est prête à donner comme elle est prête à recevoir. Donc c'est vraiment cet archétype qui porte l'énergie de cette phase lunaire. Et on finit sur notre quatrième phase, qui est la phase de la lune décroissante, qui est une phase qui amorce la fin de la lunaison, et l'énergie lunaire diminue petit à petit, et elle retrouve aussi l'élément terre, la saison de l'automne. Elle est liée à cette saison de l'automne, où on est imposé à retrouver un ancrage, à retrouver une stabilité, à revenir à soi pour préparer l'hibernation suivante. C'est ces énergies d'automne qui prédominent, et il est vraiment temps de ralentir, de suivre le rythme, de reprendre des forces, de se nourrir des nutriments de la terre-mère que l'on a récoltés en pleine lune, pour se préparer à entamer un nouveau cycle. Pensez encore une fois à l'automne, les feuilles tombent pour créer un terreau fertile qui sera nécessaire au prochain printemps. C'est un moment, la lune décroissante, d'introspection, on se nourrit nous-mêmes, mais ça peut aussi être un moment de dualité avec notamment un mental qui a du mal à ralentir après l'énergie de pleine lune. On a été dans un pic yang exacerbé et tout d'un coup on nous demande de ralentir. Donc ça peut être difficile à vivre et ça peut être sujet à des frustrations. Mais c'est aussi une période qui appelle un mental très créatif du coup parce qu'on est entre cette béatitude de la pleine lune. Enfin, on a eu cette béatitude de la pleine lune qui a facilité l'état de flottement et qui est un état plutôt bénéfique pour des phases de création. Mais en lune décroissante, on a en plus cette idée que la réflexion est beaucoup plus calme. Donc c'est vraiment une période de créativité exacerbée. Et l'heure est au bilan et aux conclusions. Et cette étape est très importante pour pouvoir préparer avec plus de facilité et d'alignement le programme, si je peux dire, qu'on déroule en phase de nouvelle lune, qui est la phase qui suit. En mots-clés pour la lune décroissante, je vous ai mis relâchement, lien, soutien, régénération, repos, transformation et être, parce qu'on est vraiment dans cette phase de juste on est. L'archétype, c'est l'archétype de l'enchanteresse, parce que c'est une période d'introspection et d'intuition qui est très forte, et l'enchanteresse est un archétype impulsif et un archétype débordant. Donc ça rentre bien, on associe l'enchanteresse à cette phase-là. Je vous ai fait quand même un petit mot sur les quartiers, bien que, je vous le rappelle, ce sont pas, c'est pas important, enfin, vraiment dans vos analyses, enfin, quand dans le cadre de l'énergétique, par exemple, si vous voulez fixer un rendez-vous à une certaine période, concentrez-vous juste sur les nouvelles et les pleines lunes, hein, je vous l'ai dit, mais je vous donne quand même à quoi correspondent les quartiers pour votre information. Les quartiers, c'est un aspect carré entre le soleil et la lune, je vous montrerai, parce que voilà, pendant ces phases lunaires, ce sont des phases lunaires de transition, en fait. On transite d'un pic lunaire à un autre. Vous avez un premier quartier entre la nouvelle et la pleine lune, et un dernier quartier entre la pleine lune et la nouvelle lune, dans un cycle. Donc c'est des énergies qui sont liées à des zones de pivot, où on est dans des énergies assez déroutantes, parce que ça peut créer des conflits intérieurs, on est vraiment entre deux choses. Comme, pour parler à moitié vulgairement, le cul en deux chaises, c'est vraiment ça les énergies de quartier. Et ça peut être compliqué parce que c'est des périodes où souvent il y a des choix à faire, des choses à gérer. Pour le premier quartier spécifiquement, donc celui entre la nouvelle et pleine lune, c'est une période d'entre-deux, et de remise en question et de forte envie de contrôle. Il y a beaucoup de détermination parce qu'on est dans une phase de lune croissante tout de même, mais du coup on met un peu peut-être de côté la morale ou les contraintes qui sont autour de soi et notre volonté se réveille tellement qu'on a une sorte d'autorité naturelle qui s'éveille, mais qui peut-être encore un peu mal placée, peut-être encore un peu jeune, adolescente. Du coup on a une fougue parce qu'on est dans des énergies de lune croissante, mais en même temps on n'arrive pas forcément à bien la placer. Ça crée un peu cet aspect conflictuel du quartier du premier quartier du cycle. Dans le cas du dernier quartier, donc le quartier qui est entre la pleine lune et la nouvelle lune, c'est une période où on est entre deux, entre le bilan du cycle qu'on a vécu et l'anticipation du prochain. Parce que, je vous l'ai dit, c'est une phase de bilan, mais forcément, on est en train de préparer le terreau, comme je vous l'ai dit. La phase de lune décroissante, c'est une phase liée à l'automne, on prépare le terreau. Donc il peut y avoir cette dissonance entre, ok, je fais le bilan de ce cycle, ah, mais en même temps, il faut que je pense au cycle suivant. Donc il peut y avoir un tiraillement qui doit être analysé comme, comment dire ça, vous avez un aspect visionnaire où on veut se projeter, mais en même temps, on n'a pas envie de prendre la réflexion qui est nécessaire pour apporter une réflexion maturée dans l'énergie de nouvelle lune qui suit. Donc on est dans une mise en attente et on souhaite déjà être dans la progression et la mise en action suivante, mais il faut accepter, et c'est un peu le souci d'ailleurs de nos sociétés actuelles, cette phase de bilan et de réflexion et d'intériorisation et d'introspection est souvent passée à la trappe. Voilà pour les quartiers. Une petite note, si vous voulez aller plus loin dans l'exploration des phases, et notamment si vous vous intéressez à son influence particulière sur le féminin, je vous rappelle, c'est pas le propre de cette formation, mais vous savez peut-être que j'ai écrit un cahier qui retrace spécifiquement l'influence des phases lunaires sur les phases du cycle féminin. Donc je vous redirige vers ce cahier qui est payant, il coûte je crois 18€ de mémoire. Voilà, donc si ça vous intéresse, sachez que c'est une ressource que je propose, mais évidemment ce n'est pas le propre de ce cours que de vous faire un cours aussi sur le cycle féminin, sinon on n'a pas fini. Mais voilà, c'est ici, c'est là, le message est passé. À présent, on va voir l'influence en signe. Alors, un petit disclaimer que je vous rappelle, je vous donne des termes assez généraux, mais rappelez-vous, on n'analyse pas une nouvelle lune comme on analyse une pleine lune. C'est-à-dire que les énergies que je vous donne là, elles vont être différentes en nouvelle lune, vous vous rappelez pic d'intériorisation, que en pleine lune, qui est un pic d'extériorisation. Donc, gardez bien ça en tête, les réflexions que je vous ai faites, que je vous ai fait autour de l'influence en signe, dépendent de quel pic lunaire on parle. Pour la lune en bélier, donc c'est une lune qui est très instinctive, qui est primitive et spontanée. Les émotions sont enflammées, elles sont impulsives, incontrôlables, mais elles peuvent aussi retomber tout aussi vite. L'énergie est indisciplinée et le feu peut rapidement brûler. Une lune qui est explosive, dévastatrice, mais qui pour autant est initiative et courageuse. On se sent combatif en lune bélier, la lunaison est mouvementée, on ne tient pas en place et aussi on se consume assez facilement dans l'action. On veut aller de l'avant et on ose aussi dominer, ce qui auparavant peut-être nous stoppait. Donc on est dans une ouverture au niveau des voies, on est dans la transgression parce qu'il faut bien un peu de transgression pour aller de l'avant. Tout est très rapide, voire peut-être même agressif, selon l'aspect. Et c'est un élan de vie, en fait, dans sa dimension la plus pure, la lune en bélier. La lune en taureau, c'est une lune qui retranscrit des énergies matérialistes. Les plaisirs sont mis en avant et on jouit aussi de la matière et de ce qu'elle a à nous offrir en termes de nourriture, de biens, de finances, de plaisirs charnels, tout ce qui est lié à ces énergies taureaux. L'énergie est à la consommation, mais aussi à la fécondation. C'est une lune qui est affective, sensuelle, gourmande, et elle nous rapproche de la nature et de notre corps. On profite souvent trop, on cherche aussi à posséder pour alimenter l'énergie épicurienne de la lune taureau, et c'est une lune qui est créative, c'est une lune qui est aussi ancrée, mais qui est pour le coup dans le non-mouvement. Beaucoup plus difficile d'entrer dans une action en lune taureau. En lune Gémeaux, c'est une lune qui est mouvante, qui est curieuse, qui est intellectuelle. La communication est facilitée, l'énergie est toutefois assez instable, assez nerveuse, réactive. Le mental est agité, hyper stimulé. Le climat est léger et entraînant. L'ouverture aux autres est facilitée et aussi on s'adapte plus facilement. C'est une pleine lune aussi qui n'est pas du tout ancrée, enfin très peu ancrée et très peu stable. Les énergies sont changeantes, sont mouvantes, sont désordonnées. C'est une lune qui est aussi très insensible, détachée. Les émotions sont vécues sous un prisme du mental, comme toutes les lunes mercuriennes. Le besoin de stimulation est fort au niveau de l'intellect et ça peut aussi nous amener à des bonnes mondanités, c'est-à-dire à aller voir le monde, mais à batifoler, si je peux dire, d'une personne à une autre, d'un intérêt à un autre, sans vraiment s'y fixer, sans vraiment rentrer dans les détails. Et le besoin d'échanger est très présent, très important. On est vraiment dans une lune de communication. La lune en cancer, c'est une lune qui est chez elle, déjà, parce qu'elle est dans son signe de maîtrise. Elle y déploie du coup son plein potentiel et les émotions s'épanouissent, la sensibilité s'accroît. On est dans une énergie qui est maternelle, qui est douce, nourrissante, et la famille et ses influences peuvent être très fortes. Aussi, il y a les influences de la patrie et des racines qui peuvent être très fortes. Le passé, la nostalgie aussi. On peut toutefois plus facilement se laisser aller, ou en tout cas développer une dépendance affective, avec le besoin de sécurité aussi notamment qui peut se faire sentir, et aussi le besoin de se réfugier dans son cocon. C'est une lune d'intériorité, hein. On n'est vraiment pas dans quelque chose de... Par exemple, imaginons vous avez une pleine lune en cancer, c'est pas une pleine lune qui sera hyper extravertie, explosive, extériorisée, pas du tout. Le besoin d'intériorité est du coup assez fort et on a une certaine méfiance au niveau de l'extérieur. Et c'est pour ça que je dis, par exemple, dans le cas d'une pleine lune, une pleine lune en cancer, typiquement, ça crée des dissonances parce que la pleine lune, dans sa définition, nous invite à aller voir l'extérieur. Mais vu qu'elle est en énergie cancer, eh ben, on a un truc qui nous fait nous retirer du monde. Et ça peut évidemment créer des dissonances énergétiques. On va chercher en lune en cancer à être chouchouté, à prendre du temps pour soi, à prendre du temps pour son cercle intime notamment. Une lune en lion, alors c'est une lune qui a un fort besoin de reconnaissance. On veut que notre richesse intérieure puisse briller et s'exprimer au monde. C'est une lune où l'émotion est forte, flamboyante, confiante, mais aussi avec... beaucoup de justesse, il y a beaucoup de noblesse dans l'énergie d'une lune en lion. L'estime est présente, on veut le meilleur parce qu'on le mérite. L'énergie est créative, mais on cherche surtout la valeur dans la création. Plus que l'artistique, on cherche la valeur dans ce qu'on crée. C'est une lune romantique, passionnée, mais aussi orgueilleuse, égocentrique, pour certains aussi également. Ça dépend le prisme, comment est aspectée la personne avec cette lune. On va chercher à briller, à être admiré, à être fier de ce que l'on dégage. Les caractères s'affirment, on tente de trouver et de prendre sa place. La lune en vierge, c'est une lune qui est raisonnable, organisée, rationnelle, très rationnelle. On va faire passer les autres avant soi, on est toujours dans cet aspect un peu sacrificiel hein, des énergies vierges. L'énergie est très passée sous contrôle. Elle est bien pensée, mais surtout, elle doit être vecteur de résultats. On a du coup une tendance perfectionniste hein, qui se réveille avec un mental qui interfère beaucoup avec le vécu de la lunaison, avec l'émotionnel notamment, parce que la lune, n'oubliez pas, la lune est le principe de l'émotionnel. Donc, quand une lune est en vierge, le mental va interférer avec ce principe émotionnel. Les plaisirs sont passés à la trappe en lune vierge. C'est une lune où on se détache des besoins instinctifs. Et on ne laisse rien transparaître. C'est une lune qui est très prude au niveau de ses sentiments. Du coup, typiquement, vous allez... l'émotionnel va pas être compris, va pas être bien vécu dans les pics lunaires, nouvelles ou pleines lunes, parce qu'on est très prude au niveau de son émotionnel, on n'a pas envie de l'écouter. Donc forcément, on a du mal à appréhender les pics émotionnels, c'est normal. C'est une lune qui est exigeante, simple, travailleuse, analytique. Le relâchement n'est pas au programme, très clairement. On est dans une lune qui est assez, euh, qui est dans le résultat, la recherche de résultat. Et pour être dans la recherche de résultat, il faut être dans une certaine action. C'est pas une action de lune de feu, mais c'est une action de lune de terre, donc une action qui est maturée, qui est stable. On y fait le tri en énergie vierge. Il y a beaucoup ce côté organisation et tri. On observe et surtout, on conclut. C'est-à-dire que on va faire le choix de ce que l'on garde et ce que l'on ne garde pas. On est réservé, on est discipliné en lune vierge. La lune en balance, c'est une lune qui est dans une teinte d'unification. On va unir deux personnes. En général, c'est plus dans la notion de couple ou de partenariat ou d'alliance. C'est une lune délicate, avec plein de petites attentions pour les autres. On a vraiment cette envie d'être dans l'harmonisation avec autrui. La communication, du coup, est vachement facilitée parce qu'elle répond à cette harmonisation de la balance. La recherche d'équilibre est au cœur des préoccupations. Ça va être trouver son équilibre, trouver le juste milieu, peser le pour et le contre. Voilà, c'est typiquement des choses qui se manifestent en énergie balance, en lune balance. C'est une lune amoureuse qui révèle la beauté en chacun. Elle est amoureuse du monde, elle est amoureuse des gens, tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. Voilà, ça c'est typiquement lune balance. On y développe notre sens de l'attention, de l'élégance, du raffinement. On est sensible aussi, on est plus sensible à l'opinion d'autrui. On s'affirme avec difficulté en lune balance et la solitude aussi peut être mal vécue. Elle révèle notre nature superficielle, mais aussi notre diplomatie et notre gentillesse. On est plus conciliant, on est plus juste, mais aussi on est plus influençable, parce que le besoin d'aimer d'être aimé est plus fort, mais aussi on a un fort besoin d'aimer. Donc besoin d'aimer et besoin d'être aimé qui s'intensifie. La lune en scorpion, c'est une lune qui est difficile. C'est pas un placement que la lune aime beaucoup. Ça fait remonter des émotions qui sont inconfortables, qui sont liées à l'inconscient, au psychisme. On déconstruit beaucoup en lune scorpion des éléments notamment de l'inconscient et on a un fort besoin d'intimité et de passion qui peut se révéler. C'est une lune qui est instinctive, complexe, dans une insécurité aussi angoissante. Elle révèle des relations compliquées, des tendances toxiques. La libido s'intensifie, tout l'aspect sexualité s'intensifie en lune scorpion. La volonté de vouloir transgresser aussi, on a plus ce goût du risque, parce que c'est une lune qui est tout à fait curieuse et qui veut creuser au plus profond, quitte à peut-être aller au-delà des warnings. C'est une lune qui nous dote d'une grande perspicacité, beaucoup de lucidité en lune scorpion, et du coup ça peut aider pour des process un peu plus, qui demandent plus de profondeur justement pour être compris, pour être analysé. On peut facilement tomber dans un jeu manipulateur aussi, où on va chercher les dangers, où on va chercher à manipuler les autres, etc., etc. Une lune en Sagittaire, c'est une lune qui est confiante, qui est extravertie, expansive, optimiste. On a des envies de voyage, des envies d'exploration, de découverte. Une lune qui est très philosophe avec une quête de sens, des questions existentielles qui peuvent prendre le pas sur cette lunaison. Les besoins deviennent excessifs. Il y a une notion d'abondance, on est dans une recherche d'abondance. Et aussi une recherche de compréhension, notamment cette fameuse quête de sens qui anime les lunaisons sagittaires. C'est une lunaison qui est optimiste de par le partage, de par les enseignements. Et l'énergie est chaleureuse, l'énergie est généreuse, mais elle est aussi dynamique, libre. Il y a vraiment cette idée de liberté. La foi augmente aussi les croyances, les dogmes, et le besoin d'expansion devient débordant. On a vraiment ce besoin de bouger, mais pour s'expanser. La lune en Capricorne, c'est une lune qui est... C'est un placement qui est très difficile pour la Lune, le Capricorne. Elle y est froide, elle y est distante, elle n'est pas à l'aise dans son émotionnel, elle est hostile. Elle répond difficilement à ses besoins en Capricorne. Les démonstrations affectives sont rares. Voilà, il y a toujours cette distance, non pas par ce côté prude qu'aurait la Vierge, mais plus par le côté « les émotions me fragilisent, donc j'ai pas envie de les regarder ». C'est plus ce côté-là. On se coupe de l'extérieur avec une lune en Capricorne, on construit un rempart entre soi et le monde, et du coup il peut y avoir une frustration qui va se manifester parce que on est dans des énergies qui sont stables, qui sont solides, mais qui vont, créer une réalité sans passion, sans spontanéité, et Donc voilà, ça peut être synonyme de frustration. La rigueur et le respect sont des directives qui prédominent. On se sent fort, on se sent autosuffisant, donc on se dit qu'on n'a pas besoin des autres, mais en réalité, voilà, on passe sous silence nos besoins, en fait, tout simplement, nos états d'âme, parce qu'on n'a pas envie de les écouter. Les énergies sont utilisées plus qu'elles ne sont expérimentées. On est dans une logique de productivité, de résultats, plus que d'expérimentation. On se concentre pas sur le chemin, mais on se concentre bien sur l'arrivée. La notion d'engagement est aussi importante. Une lune en Verseau. Une lune Verseau, c'est une lune qui est détachée, qui est cérébrale, qui est coupée de ses instincts. On se tourne vers le collectif, vers les amis, les amitiés aussi. C'est une lune de non-exclusivité. On ne va pas supporter les élans de possessivité, que ce soit des possessivités relationnelles, mais aussi à des obligations trop prenantes, des engagements trop prenants. C'est une lune qui va augmenter notre désir de liberté, notre désir d'indépendance. Aussi, le besoin de nouveauté et de changement prédomine. L'énergie est imprévisible, instable, mais elle est aussi tolérante, fraternelle. Des éléments originaux et provocants peuvent se manifester, et l'envie d'aller toujours plus loin et toujours plus vite, qui est également une tendance lune Verseau. Et enfin, une lune poisson, c'est une lune qui est fusionnelle, hypersensible, on déborde d'émotions, l'imaginaire et l'abstrait est très fort, les ressentis sont exacerbés. On peut toutefois noter un manque de volonté, un manque d'initiative, quand bien même l'empathie y est décuplée. Le besoin de se connecter aux autres et à leurs souffrances est aussi bien présent. On a une tendance à l'idéalisation et à la rêverie. Et l'énergie est dévouée, elle est compatissante, elle est profonde, elle est dans l'amour universel, mais elle peut être aussi un peu envahissante du coup. C'est une lune où on peut rapidement se sentir submergé du point de vue émotionnel. Donc je vous ai fait un mémo pour suivre ces descriptions que vous pouvez lire dans le PDF, donc ça sert à rien que je vous le lise en audio parce que c'est plus pour une mémorisation où je vous dis voilà la différence entre nouvelle lune, la différence entre pleine lune et les mots-clés pour chacun des signes du zodiaque. Je vous partage aussi une information que je ne vous ai pas mis à l'écrit, c'est-à-dire que quand vous avez la lunaison, comment dire ça, pour comprendre dans quel signe est une nouvelle lune et pour comprendre dans quel signe est une pleine lune, en fait, il faut vous dire que quand le soleil est en bélier, la nouvelle lune sera en bélier. Mais la pleine lune sera dans le signe à l'opposé du bélier, donc la balance. C'est pour vous donner la logique. Par exemple, on est le 4 août, donc le soleil serait en lion, donc la nouvelle lune sera aussi en lion, mais la pleine lune sera dans le signe opposé, qui est le Verseau. Donc voilà, c'est pour vous donner la logique, en fait c'est cyclique, hein, que vous compreniez en fait comment on sait que dans quelle nouvelle lune sera la nouvelle lune du mois et dans quelle pleine lune sera la pleine lune du mois, sachant que dans des cas particuliers, il y a parfois deux pleines lunes dans le mois, ou deux lunaisons dans le mois. Ça arrive. Pour ce faire, je vais vous mettre un podcast que j'avais fait pour vous donner d'autres petites informations en plus. Aussi, je vous conseille d'écouter les podcasts de lunaison que je fais. Alors, vous n'avez pas forcément besoin d'écouter toutes les parties où je décris... Enfin, c'est juste la première partie où à chaque fois je décris qu'est-ce que cette lune développe dans un signe. Et c'est si vous suivez ces podcasts, c'est déjà une bonne... un bon entraînement en fait pour vous habituer aux énergies lunaires. Et évidemment les parties où je développe spécifiquement la carte du ciel et l'horoscope, c'est inutile, mais moi la première partie où je décris ok, lunaison en gémeaux, qu'est-ce que c'est, une pleine lune en gémeaux, qu'est-ce que c'est, et voilà, ça peut être intéressant, donc je vous invite à être curieux là-dessus. Voilà, je vous laisse avec votre expérimentation, et je vous dis à bientôt pour un prochain cours.